Il y a cette image hyper universelle de la crucifixion que tout le monde a en tête. Tu sais, la peinture classique de la Renaissance avec la lumière super douce, les visages dignes, le petit linge blanc drapé parfaitement et cette espèce de silence sacré. C'est presque apaisant, en fait.
Ouais, c'est clair, c'est l'image d'Épinal par excellence.
Sauf que voilà, aujourd'hui, dans notre plongée au cœur des sources, on va gratter ce vernis. On va analyser les notes et les transcriptions du docteur Krackiner sur les chapitres 27 et 28 de l'Évangile selon Matthieu. Et le but, c'est vraiment de passer en haute définition, de regarder la vraie histoire médico-légale et politique de ce vendredi-là à Jérusalem. Et spoiler, c'est pas une peinture de maître.
Ah ben non, pas du tout. Le contraste est même carrément vertigineux. La réalité, c'est une scène de crime ultra brutale, chaotique. La machine pénale romaine, son but, c'était pas du tout de créer des martyrs poétiques, tu vois.
C'était quoi alors ?
L'efficacité pure.
L'anéantissement.
Il voulait détruire un individu physiquement, mais surtout socialement, pour terroriser quiconque aurait des envies de rébellion. C'est une arme de destruction psychologique d'une froideur impériale hallucinante.
Eh ben, on va décortiquer tout ça, et le premier choc, je trouve, dans les sources de Kinner, ça commence avant même d'arriver sur le lieu de l'exécution. Il y a ce civil qui passait par là, Simon de Cyrène. On nous dit qu'il est réquisitionné. Mais qu'est-ce qu'un mec de Cyrène, donc l'actuelle Libye, fait au beau milieu d'une exécution à Jérusalem ?
Bah, la démographie de l'époque explique tout. Cyrène, c'était une métropole nord-africaine énorme, avec beaucoup de Libyens, des colons grecs et une diaspora juive massive. Simon, c'est un nom grec, mais beaucoup de juifs l'adoptaient parce que ça sonnait comme Siméon.
D'accord, donc c'est un pèlerin.
Exactement. Il est là pour la fête de la Pâque. Jérusalem était saturée, il y avait des dizaines de milliers de personnes en plus.
Mais on entend souvent cette version qui dit qu'il revenait des champs, genre le paysan qui rentre du boulot. Mais c'est la Pâque, c'est un jour férié, non ? Il pouvait pas bosser.
C'est un super point, ouais. Comme la ville débordait, la plupart des pèlerins devaient camper dehors, dans la campagne. Donc Simon, il rentrait pas du boulot agricole, il rentrait juste en ville depuis son campement.
Ah ouais, donc il marche tranquillement et paf, il tombe sur l'escouade romaine.
Voilà. Et là, le condamné vient de subir la flagellation romaine, un truc qui arrachait littéralement la chair, hein, et il s'effondre. Il peut plus porter le patibulum, la poutre en bois. Et les soldats romains, bah, ils vont pas s'encombrer.
Ils ont des délais à respecter, quoi.
Ouais, et surtout, la loi d'occupation impériale leur donnait le droit absolu de forcer n'importe quel civil, à n'importe quel moment, à faire une corvée. Simon s'est pas porté volontaire, on lui a mis une arme sous le nez, en gros.
C'est fou d'être aspiré dans ce rouleau compresseur romain comme ça. Et bon, après, ils arrivent au Golgotha, le lieu de l'exécution. Et là aussi, faut dissiper le mythe du petit panier blanc immaculé. La crucifixion, c'est la nudité totale, c'est bien ça.
Total, c'est vraiment l'humiliation absolue. Faut bien comprendre que c'était pas juste une mise à mort. C'était un spectacle obscène réservé aux pires de la société, genre les esclaves rebelles, les séditieux.
Pour bien montrer qui est le patron.
Exactement. L'État romain te dépouillait de toute ta dignité. T'es nu, couvert de sang, tu perds le contrôle de tes fonctions corporelles, devant une foule qui se marre, avec les insectes du Moyen-Orient qui viennent sur tes plaies à vif.
Oh là là, l'horreur. Et la mécanique même de la mort, d'après les sources médicales que cite Kinner, c'est presque diabolique. C'est pas le saignement qui tue, en fait.
Non, c'est une asphyxie super lente. Le poids du corps suspendu par les bras, ça étire les muscles intercostaux et ça bloque ton diaphragme en position d'inspiration.
Donc tes poumons sont pleins et tu peux pas souffler.
C'est ça, pour expirer et reprendre de l'air, la victime doit pousser sur ses pieds cloués.
Aïe.
À chaque respiration, tu soulèves tout ton poids en frottant ton dos complètement écorché contre le bois brut. Et quand l'épuisement arrive, parfois après plusieurs jours, tu peux plus te soulever. Et là, l'asphyxie te tue.
Mais c'est de l'ingénierie, de la torture, c'est presque des maths à ce niveau-là. D'ailleurs, pour piger la psychologie des Romains à l'époque, Kenner mentionne d'autres châtiments de leur loi pénale. Et c'est complètement hallucinant.
Ah oui, le châtiment pour le parricide. Si tu tuais un membre de ta famille, la procédure c'était de t'enfermer dans un grand sac en cuir.
Déjà c'est glauque, mais attendez la suite.
Ouais, pour rendre ça bien effroyable, il mettait avec toi un chien, un coq, un serpent et un singe, ou parfois un scorpion.
Un sac grouillant de bêtes en panique.
Voilà.
Et jeter le sac dans le fleuve.
Mais c'est de la folie furieuse. Ça montre bien que la punition, elle doit être créative et terrifiante pour eux. Et pendant ce temps-là, sous la croix, t'as les soldats qui font de l'administratif. C'est le fameux contubernium, c'est ça le terme.
Ouais, le contubernium, c'est l'unité de das de l'armée, 8 gars qui partagent une tente, et souvent ils en assignaient 4 pour gérer une crucifixion. Et comme la loi disait qu'ils pouvaient garder les affaires du condamné, bah ils se partagent les fringues.
Et ils tombent sur la tunique.
qui est tissé d'une seule pièce. S'il la déchire, elle vaut plus rien, donc il sort des dés pour tirer au sort.
Ce qui est dingue, c'est que ces légionnaires, qui ont genre jamais lu un texte juif de leur vie, ils accomplissent le psaume 69 à la lettre. Pour eux, c'est juste un vendredi après-midi classique, ils parient des fringues sous un mec qui s'étouffe. Mais je trouve que si la violence de Rome est glaçante, celle de la foule est encore plus déroutante. Il y a une vraie dissonance cognitive.
Ah, la cécité de la foule, c'est stupéfiant. Les textes disent qu'il hoche la tête, il lâche des insultes, mais Kinner souligne un truc fou. Il répète quasi mot pour mot les provocations du diable dans le désert.
Le fameux « Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix ».
Exactement. Et le pire pour un lecteur de l'Antiquité, c'est qu'il cite involontairement la sagesse de Salomon.
C'est un texte qui circulait beaucoup à l'époque, non ?
Énormément. Et dans ce texte, ce sont les grands méchants, les antagonistes pervers qui disent du juste Esh. Voyons si ses paroles sont vraies, s'il est fils de Dieu, Dieu le délivrera. Donc les badauds, sans s'en rendre compte, ils prennent le rôle des méchants de leur propre littérature.
Ils se condamnent avec leurs propres mots, quoi. Et il y a aussi ce truc qu'il hurle, il a sauvé les autres, il peut pas se sauver lui-même. C'est l'ironie absolue. Si le but du gars, c'est de se sacrifier pour les autres, bah, il peut logiquement pas descendre pour se sauver lui-même.
C'est l'ironie dramatique pure. Le lecteur sait un truc énorme que les personnages ignorent. Est un autre exemple de cette surdité au moment du cri d'agonie. Jésus hurle le psaume 22. « Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Et les gens entendent « Élie » et ils croient qu'il appelle le prophète Élie. Mais pourquoi il penserait à Élie à ce moment précis ? C'est absurde.
À cause d'une tradition populaire, les gens croyaient qu'Élie, qui était parti au ciel dans un char de feu, allait revenir pour sauver les justes en détresse. Du coup, la foule déforme ce cri de détresse absolue pour en faire une vanne cynique, genre « Ah, on va voir si Élie débarque ».
Alors que le pire, c'est qu'historiquement parlant, Élie était déjà venu, de manière symbolique, sous les traits de Jean-Baptiste. Et il s'était déjà fait tuer.
Exactement.
En fait, qu'ils soient tous autant à côté de la plaque, ça renforce la crédibilité du texte, non ? Je veux dire, si tu veux inventer un mythe pour glorifier ton héros, tu vas pas écrire une scène où tous ses potes s'enfuient et où les témoins comprennent rien à la situation.
C'est le fameux critère de l'embarras. Une pure invention. T'aurais mis des disciples héroïques, une foule qui tremble de respect. Mais là, la mort arrive au milieu de malentendus sordides. Et la temporalité de la mort, c'est là que ça bascule. On est à la 9e heure, donc 15 heures.
Soit le moment précis où, juste à côté dans le temple, les prêtres égorgent les agneaux de la Pâque. La synchronicité est folle. Et c'est là qu'on nous parle de bouleversement cosmique, des ténèbres pendant plusieurs heures. Est-ce que c'est juste de la poésie littéraire ou on a des preuves de ça ?
C'est là que ça devient génial. On a un historien païen, Talus, qui écrit vers l'an 52. Et il essaye d'expliquer ces fameuses ténèbres de la crucifixion par un phénomène naturel, une éclipse solaire.
Sauf qu'une éclipse solaire pendant la Pâque juive, c'est astronomiquement impossible, vu que c'est la pleine lune, et qu'il faut une nouvelle lune pour une éclipse.
Tout à fait. Et le fait que Talus cherche une excuse scientifique, c'est super important. Ça prouve que cet assombrissement, c'était un fait public super connu, et qu'il ne pouvait pas juste dire « c'est jamais arrivé ». Il devait dire « oui, c'est arrivé, mais c'était juste une éclipse ».
Ah oui, circuler, il n'y a rien à voir en gros. Et il y a aussi le tremblement de terre.
Oui, un symbole classique d'intervention divine chez Matthieu.
Donc, la terre tremble, il fait nuit en plein jour, les disciples mecs ont disparu par peur. Et là, surprise, Joseph d'Arimathie entre en scène. Un type riche, du Sanhédrin, il va voir Pilate pour demander le corps. Mais c'est hyper dangereux de faire ça, non ?
C'est un risque mortel. La politique romaine, c'était de laisser les cadavres pourrir sur la croix, mangés par les chiens et les oiseaux. C'était leur panneau publicitaire géant pour dire « on a gagné ». Demander le corps d'un rebelle, c'était de la lèse-majesté.
Donc Joseph, en gros, il dit à Pilate « Coucou, suis le pote du traître que vous venez de puter ?» Mais sa richesse, ça le protégeait pas un peu ?
Au contraire ! Les gouverneurs romains, ils étaient corrompus. Ils cherchaient toujours des excuses pour accuser les riches de trahison et confisquer leurs biens. Joseph mettait toute sa vie en jeu.
Et Pilate lui donne quand même le corps ?
Probablement parce que Pilate savait bien que Jésus n'était pas un vrai chef rebelle armé. Pour lui, c'était juste un de ces prédicateurs philosophes bizarres, inoffensifs pour l'Empire.
Bon, le corps est mis dans un tombeau neuf. Et là, je voudrais qu'on parle d'un détail archéologique de dingue sur le Saint-Sépulcre. Ça nous donne un véritable horodatage. Moi, je vais faire l'avocat du diable deux secondes. Aujourd'hui, le Saint-Sépulcre est en plein milieu de Jérusalem. Or, les lois juives et romaines interdisaient les tombes dans la ville. Ça prouve bien que c'est un faux site inventé bien plus tard, non ?
C'est le bon réflexe critique. Sauf que l'urbanisme antique prouve l'inverse. En l'an 30, le site était dans une carrière abandonnée, à l'extérieur des murs. Mais après, le roi Hérode Agrippa Ier a fait des grands travaux.
Il a construit un nouveau mur, c'est ça ?
Ouais, un nouveau rempart qui a englobé le site à l'intérieur de la ville. Et Agrippa est mort en l'an 44.
Attends, donc s'ils avaient voulu inventer un faux tombeau après l'an 44, ils ne l'auraient jamais mis là puisque c'était devenu illégal et en pleine zone d'habitation.
Exactement. Ce petit détail d'architecture prouve que la tradition du tombeau à cet endroit précis s'est fixée avant l'extension du mur.
Donc, moins de 14 ans après les faits, c'est hyper précoce, ça ferme la porte au mythe qui se construit sur des siècles.
Totalement. Ça nous force à prendre cette source au sérieux. Et ce tombeau vérifiable, il devient le théâtre du plus grand choc théologique de l'époque, la résurrection.
Alors là, faut qu'on se remette dans la tête des gens du 1er siècle. Parce qu'on entend souvent, oui, bon, les Grecs, les païens, ils avaient plein de mythes de dieux qui meurent et ressuscitent, genre Adonis, Osiris. En quoi c'était si scandaleux d'annoncer ça pour cet homme-là ? Ah, faut pas confondre les mythes de fertilité et la résurrection corporelle. Les dieux païens, c'était lié à l'agriculture. Ils mouraient en automne, renaissaient au printemps. C'était une allégorie. Et surtout les Grecs, très influencés par Platon, ils voyaient le corps humain comme une prison dégoûtante pour l'âme.
Genre on veut s'en libérer, pas y retourner.
Voilà. L'idée qu'un cadavre froid se remette à respirer, à manger, à se balader avec ses cicatrices, pour eux, c'était pas beau, c'était absurde et répugnant.
Et les Juifs ?
Les pharisiens croyaient à la résurrection pourtant.
Oui, mais juste comme un événement collectif, à la fin des temps. Tout le monde ressuscite en même temps pour le jugement dernier. L'idée qu'un gars tout seul ressuscite au beau milieu de l'histoire, pendant que le monde continue de tourner, ça existait nulle part. Personne s'attendait à trouver un tombeau vide.
Ce qui amène l'argument classique de notre époque. Bon, ils étaient en deuil, traumatisés, ils ont eu des hallucinations collectives. Qu'est-ce que les sources et la psychologie disent là-dessus ?
Le problème clinique de l'hallucination, c'est que c'est individuel, comme un rêve. Il n'y a pas de Wi-Fi pour partager une hallucination. Or là, les textes parlent d'apparitions collectives, avec plusieurs sens impliqués. Ils voient, entendent, touchent, mangent. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qu'il y a plus de 500 témoins visuels et que la plupart sont encore en vie. Il dit texto, allez leur demander.
Et il y a la question des conséquences. Hein ? L'analogie du docteur Kinner avec le Watergate est géniale. Charles Colson disait que les hommes les plus puissants du monde n'ont pas tenu un mensonge plus de quelques semaines pour éviter la prison.
Ouais, eux, c'était des politiciens blindés. Les premiers disciples, c'était des paysans impuissants. Ils ont affronté la torture, la ruine, l'exil, des morts atroces. Sociologiquement, c'est impossible qu'un groupe entier maintienne un complot inventé en acceptant de se faire massacrer un par un sans jamais craquer.
Surtout quand tu vois le casting qu'ils ont soi-disant choisi pour lancer la rumeur. Encore le critère de l'embarras. Les tout premiers témoins qui trouvent le tombeau, ce sont des femmes. C'était quoi la valeur légale d'une femme à l'époque ?
Zéro, ou presque. Dans le droit juif et romain, le témoignage d'une femme n'était souvent même pas admissible au tribunal. Flavius Joseph, le grand historien, disait qu'il fallait rejeter leur témoignage à cause de la légèreté de leur sexe. D'autres rabbins disaient qu'une femme était aussi crédible qu'un voleur qui avoue.
Ah ouais, la classe ! Donc si tu veux monter une agence de com pour conquérir l'empire patriarcal, c'est la pire stratégie de l'univers de choisir des femmes. T'aurais pris Joseph d'Arimathie, des hommes barbus, vieux, riches et respectables.
Exactement. Si les évangélistes mettent des femmes au centre de la plus grande découverte de leur foi, en détruisant leur propre crédibilité face aux élites antiques, il n'y a qu'une explication.
C'est que ça s'est vraiment passé comme ça.
Voilà. Ils n'avaient pas le choix de dire la vérité, même si socialement c'était hyper embarrassant.
Et cette vérité qui dérange, ça lance la première vraie guerre de l'information. À la fin de Matthieu, il y a un contraste énorme entre le rapport des femmes et celui d'un autre groupe, les gardes romains du tombeau. Les prêtres, en panique totale, arrosent les soldats de pots de vin pour lancer une fake news.
Le récit qu'on leur dicte, c'est « Ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant qu'on dormait ».
Non mais attends, on s'arrête deux secondes là-dessus. C'est littéralement le pire alibi de l'histoire des tribunaux. Comment tu peux dire « j'étais profondément endormi » et dans la même phrase « je sais exactement qui a volé le corps ». Si tu dors, tu vois rien.
C'est complètement absurde, ouais. Et en plus, un garde romain qui s'endort pendant sa garde d'un site scellé politiquement, c'était la peine de mort immédiate.
Donc pourquoi Matthieu s'embête à inclure un mensonge aussi nul dans son texte ?
Parce que c'était très probablement la vraie rumeur qui circulait en Judée. Il devait répondre aux objections de l'époque.
Ce qui veut dire que les opposants faisaient un aveu énorme, en fait.
Totalement. Les ennemis des chrétiens ne disaient pas « Vous êtes bêtes, le tombeau est fermé, allez voir le corps ». Non, leur polémique admettait la base même du truc. Le tombeau était vide. Le débat, c'était pas s'il y avait un corps, mais pourquoi il n'y en avait plus.
C'est d'une puissance sociologique folle. Ce texte, c'est vraiment une radiographie de l'humain face à un truc impossible. D'un côté, t'as les soldats lourdement armés de l'Empire. Face à l'inexplicable, ils choisissent la peur, l'argent, le mensonge ridicule pour sauver leur statut.
Et en parfait miroir, t'as un petit groupe de femmes en deuil. Elles ont aucun droit, aucune autorité, aucune armée. Et c'est elles qui reçoivent le mandat des anges, puis de Jésus, d'aller prévenir les hommes qui se cachent.
Ce qui mène à la fameuse grande commission finale.
D'enseigner toutes les nations, oui.
Si on prend un peu de recul, l'histoire qui va façonner le monde entier pour les millénaires suivants, elle n'a pas été gérée par les sénateurs à Rome, ou les philosophes d'Athènes, ou les grands prêtres. Elle a commencé par les voix qu'on refusait d'écouter.
Les voix des marginalisés de l'Antiquité.
Et je trouve que c'est une pensée incroyable pour clôturer cette analyse. Et si la méthode même de transmission de ce message par des femmes ignorées par la loi et des soldats terrifiés, c'était le message lui-même. Comme si c'était le tout premier indice que l'architecture entière du pouvoir mondial était en train de basculer, annonçant une révolution humaine qui commençait précisément par ce qu'on voulait faire taire. C'est fou ce qu'on trouve quand on allume la couleur sur les vieilles images, hein. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée et à très vite pour une prochaine analyse.